Tous les livres dont il est question dans l'émission qui suit sont disponibles auprès du Service québécois du livre adapté. Bibliothèque et Archives nationales du Québec offrent gratuitement ce service à tous les Québécois ayant une déficience perceptuelle. Pour plus d'informations sur l'admissibilité et l'abonnement, on visite le site sqla.banq.qc.ca ou on téléphone au numéro sans frais 1-866-410-0844.
Il sentit son corps entrer dans l'eau comme une pierre, puis couler vers le fond. La lumière l'accompagna un instant, et il vit autour de lui les poissons effrayés s'échapper. L'air l'aidait encore. Et plus profonds encore, vers cette obscurité qui venait à sa rencontre en même temps qu'elle semblait s'éloigner. Tenir bon. Bientôt, ce serait fini. Comme pour son grand-père, Michele.
À livre découvert.
Il y a un certain monsieur Henri Bergson qui a déclaré un jour que pour bien lire, il suffit de posséder la partie intellectuelle de l'art du comédien. Vous me suivez? Mais pour bien jouer, il faut être comédien de toute son âme et dans toute sa personne. Je reçois une comédienne aujourd'hui formidable, je ne vous dis pas encore son nom, mais vous allez le savoir bientôt.
La table des matières.
Alors aujourd'hui à l'émission, on va commencer avec une femme pour qui c'est la première visite. Elle est bénévole, lectrice ici chez Vues et Voix. Il s'agit de Jean Bergeron. Bonjour Jean,
bonjour.
Ça va bien?
Oui, ça va bien.
Et puis nous recevons notre invitée spéciale du jour, c'est Ève Landry qui est avec nous. Bonjour Ève.
Bonjour.
J'ai été tellement contente que vous disiez oui.
Mm-hmm. Non, ça me vraiment. Fait plaisir.
Du coup, j'en suis toute énervée. Là, j'ai oublié plein de trucs aujourd'hui. Enfin bon, c'est vraiment un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. On va se reprendre. Et puis aujourd'hui aussi, je l'espère, nous nous entretiendrons avec Janine Vanier au tout début de la seconde heure de cette émission. Il y aura aujourd'hui une chronique, le classique de la semaine, parce que La chatte sur un toit brûlant de Tennessee Williams a été réenregistrée et est maintenant disponible en audio en passant par le SQLA. Je parlerai également, vous savez, c'est un petit peu la bande-annonce pour la semaine prochaine du livre de Michel Ouimet, journaliste à la presse, qui a écrit La Promesse. C'est sorti en octobre dernier. C'est maintenant disponible et Michel Ouimet va venir nous en parler la semaine prochaine à cette même émission. Et nous terminerons, bien sûr, avec quelques nouveautés en rafale.
Le bénévole du jour.
Eh ben non, on ne l'a toujours pas corrigé. Pour l'instant, il n'y a toujours que le bénévole. On fait vraiment dur, mais c'est comme ça. C'est parce qu'on a perdu notre voix qui faisait ça. Elle est partie à Toronto, Christelle. Alors, du coup, je ne peux pas la faire revenir quand même de Toronto pour qu'elle nous fasse un « la » bénévole du jour.
Ouais,
ça nous coûterait quand même très cher. Alors, notre bénévole du jour, bonjour,
c'est
Jean.
C'est moi, d'accord.
Est-ce que ça vous fait plaisir? C'est une première? Ça vous énerve un peu?
Non.
Non, ça va bien? Non, même le fait que Ève Landry soit là...
devant
star,
moi.
Star parmi les stars au Québec.
Non,
maintenant.
Écoute, non,
elle fait la lecture à première vue, donc c'est pas mal plus stressant qu'une émission à la radio, si tu veux.
Ah!
C'est très... Hein? Ouais, c'est assez flyé, je trouve, faire de la lecture comme ça.
À première vue, oui.
Ouais.
Les gens se rendent pas compte, mais c'est quelque chose. On travaille sans filet, comme
ouais,
je dis toujours.
Ouais, c'est ça. Mais aussi, c'est parce que quand on le fait devant un micro, puis on sait qu'on le fait pour plein de personnes... Mm-hmm. C'est pas la même chose que parce que ça m'est arrivé après chez moi de faire comme « Ah tiens, je vais le faire toute seule, je vais lire mon livre à haute voix, mais au bout de 20 minutes, c'est plus, je veux dire, parce que ça prend un peu de temps quand même lire haute voix, hein, on lit plus mentalement, enfin quand on lit...
Moi, je le fais régulièrement, mais chez moi, c'est un vice, là, j'ai un petit peu...
Ouais.
Jean Bergeron, de quoi venez-vous nous parler?
D'un livre que j'ai lu il y a peut-être un an, ça fait... un an et demi à peu près que je suis à Vues et Voix. Puis c'est un livre qui s'intitule « La fée des balcons ». C'est un roman québécois. C'est écrit par une femme qui s'appelle Maude Favreau.
Oui, OK.
Et puis c'est aux éditions Druides. Et jusqu'à date, je pense que j'ai surtout lu des livres écrits en français international.
OK.
Tandis que se mettre dans la bouche aussi du Québécois, c'est toujours un peu spécial. Puis je me souviens quand j'ai commencé j'ai relu le livre, puisque ça faisait un petit moment, là, pour être
ici. Oh, c'est gentil, quel professionnalisme.
Oh, oui, quand même. Ben là, je voulais... tu sais, c'est toujours bon. Des fois, on relise comme quand on revoit un film une deuxième fois ou on relit un livre. Il y a des choses qu'on redécouvre ou qu'on... Et puis de le lire à voix haute et puis de lire autrement à voix basse. Donc, mentalement, c'est pas pareil. Ouais, et je me souviens qu'au début, se mettre le langage quand même dans la bouche, tu sais, le québécois, c'est comme, c'est toujours un peu, même si...
Dans les dialogues.
Les dialogues, dans sa façon d'écrire. Mais ce qui est intéressant dans ce livre-là, cet auteur-là, je trouve que, bon, premièrement aussi, ce qui est un peu bizarre, c'est que je n'avais pas réalisé la première fois, c'est que c'est écrit à la personne d'un enfant de 10 ans qui écrit.
Ça change la lecture
aussi.
Oui,
c'est ça, c'est ça. Mais après ça, au bout de, je ne sais pas moi, une vingtaine de pages, quand j'ai commencé, j'ai fait comme, OK, ah oui, j'aime ça, c'est bon. Mm-hmm. Parce qu'au départ, c'est un... Tu sais, tu dis, ah, c'est bizarrement écrit. Puis là, tu fais comme, mais oui, c'est une fille de 10 ans, en principe, qui écrit ça.
Alors, qu'est-ce qui lui arrive à cette gamine de 10 ans?
C'est une gamine, en fait, qui a une mère qui est un peu dépressive, mais c'est le mot dépressif, je n'ai jamais vraiment dit comme ça, mais c'est qu'elle est, c'est une mélancolique chronique.
Une neurasthénique.
Et elle, finalement, elle se trouve un peu à s'occuper de sa mère. C'est comme quand sa mère va pas bien, c'est comme un enfant qui est un peu, qui devient adulte avant son âge. Mais donc, c'est sa façon d'écrire les choses qui est si propre à elle, qui est vraiment originale, ses comparaisons. Alors.
Et pourquoi le titre, La fée des balcons? Ça correspond à quoi?
Ben, c'est fou, hein? C'est en le relisant que j'ai réalisé qu'elle parlait de sa grand-mère, un moment donné, qui se prenait pour la fée des balcons, une de ses grand-mères. Et puis, je pense que, en tout cas, c'est pas... En tout cas, je veux pas tout révéler.
Mais est-ce que ça correspond à quelque chose, ici, au Québec, la fée des balcons? Est-ce que c'est un personnage, non?
On peut aimer faire du balcon, Balconville. Tu sais, les gens étaient pauvres très souvent, puis ils restaient sur leur chaise
berçante.
Oui, c'est ça. Il n'y avait pas d'endroit où aller, il n'y avait pas d'auto, ils ne se déplaçaient pas. C'est comme... Mais non, mais...
Je ne sais pas, tu sais, là, comme la fée des dents, ou tu sais, il y aurait pu y avoir la fée des balcons.
Non, mais c'est ça.
Non, quand ton balcon tombe, tu ne peux pas mettre ton balcon en dessous de ton oreiller pour en avoir un autre. Ça ne marche pas comme ça, ça.
Mais tu vois, c'est ça. Elle s'est inventée tout un monde, je trouve. C'est ça qui est merveilleux dans ce livre-là aussi.
Parce qu'elle a besoin de pallier à cette mélancolie qui doit peser très lourd lorsqu'on est une gamine de 10 ans et qu'on voit sa mère comme ça atteinte d'une profonde tristesse.
C'est pas un livre triste. Parce qu'en plus aussi, à un moment donné, c'est pour ça que c'est si bien écrit. Tu sais, comme je te dis, c'est jamais dit qu'elle est dépressive, sa mère, comme telle. Il y a jamais, le mot apparaît pas. Fait que c'est écrit de façon très intelligente. D'ailleurs, j'ai pas vraiment beaucoup cherché si elle écrivait autre chose, cette fille, mais j'avais comme envie de lire autre chose d'elle.
Et la gamine, elle a tout un physique, hein?
Oui, en fait...
Elle est, bon, un corps très, très grand, des lunettes au verre épais comme ça, donc hypermétrope.
Oui, c'est ça. C'est surtout que ça grossit les yeux, les hypermétropes.
Oui, c'est ça, c'est ça.
T'as l'impression d'avoir des yeux immenses, et puis elle est maigre, grande, un peu échalote, peu ordinaire, des broches, tu sais, c'est pas...
Alors, elle
pas
a deux chats, elle rêve d'écrire des chansons.
Oui. Mais tu sais, elle essaie de se projeter comme elle peut, hein. Elle essaie de... Puis tu sais, quand on compense, quand une personne est si tant comme ça, t'essaies de... Comme une personne qui parle beaucoup.
Vice-versa.
Fait que... Donc, c'est ça, elle essaie d'en mettre, de toujours être un peu hop la vie. Mais non, maman, voyons donc, ça va bien aller. Puis elle a des façons, une façon...
Est-ce qu'on a un petit extrait, Jim?
Ben, j'en avais plusieurs, mais là, je peux pas... ça, justement, par rapport... par rapport à cette l'état de sa mère.
D'accord.
Elle me sourit de manière étrange. J'ai ma réponse. Les yeux d'Ima... Ima, c'est le nom de sa mère pour Immaculée, là, c'est diminutif. Les yeux d'Ima me confirment qu'elle a probablement passé plusieurs heures debout avant que je ne me lève. Tu m'as vraiment fait un drôle de déjeuner... Où t'as lu que les pamplemousses aimaient le bacon? Valentine, je me demande si tu pourrais pas rester un petit peu avec moi aujourd'hui. J'irai pas à l'école la journée. Au moins ce matin, OK? Tu pourras regarder la télé ou dessiner ou jouer avec tes frisinettes, hein? Ben oui, c'est sûr, pas de problème. J'avais pas de cours avec François-Xavier. Après avoir avalé mon drôle de déjeuner, c'est pas si mauvais, les atokas beurre de peanut, finalement, je reste en pyjama et on écoute les bonhommes japonais. Il n'y a rien comme ça pour gagner le tournoi de tennis avec le cœur. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Il y a un match dans la poitrine de maman et la partie est tellement serrée qu'elle a peur de se claquer une crise cardiaque comme si elle était un vieux monsieur. Franchement, même moi qui ignore un tas de choses, je sais que maman n'a pas de cœur, n'a pas le cœur d'un petit vieux. Souvent, elle me demande de vérifier sa cage d'os. Je lui tâte le cou, puis je pose ma main sur son cœur et alors, un transfert s'opère entre nos deux corps. Mon cœur tout mou et tout chaud se met à battre un peu plus fort, juste un peu, et le sien se calme. On reste comme ça tout l'après-midi, collé, tout l'avant-midi, collé sur le divan, en dessous de la Catalogne à grand-maman Iris. Et le dessin animé fait le reste du travail. Mission accomplie! Je peux aller en classe l'après-midi, tandis qu'elle retourne travailler, apaisée.
Wow! Belle écriture, hein?
Mm-hmm. Oui!
Maud Favre, est-ce qu'on sait quelque chose? Elle est née en 76, hein, Maud Favreau.
Ouais.
C'est une musicienne aussi. Elle devient bilingue français, oui, elle devient bilingue français musique ici. Lige, avant d'apprendre une nouvelle langue, elle ne sera ni chanteuse pourtant, ni danseuse, ni peintre, ni une célèbre pianiste de jazz, ni une étoile de cinéma des années 30 comme elle aurait voulu l'être. Non, elle écrira et ce sera très bien comme ça. Vous nous avez dit que c'est son premier, c'est son seul livre pour l'instant?
Je pense que oui. En tout cas, moi, je sais que c'est son premier. Là. C'est ce que j'avais lu, moi aussi. Je suis allée voir un peu.
En tout cas, ça me semble fort intéressant que cette gamine à côté de cette mère mélancolique. Jean Bergeron,
ouais.
Vous allez revenir?
Oui, bien sûr.
Vous vouliez nous dire autre chose?
Ben non, de le lire, sinon de le lire. Mais moi, j'aimerais... En fait, moi, j'aimerais toujours savoir... Que les gens, les personnes non-voyantes qui lisent, qu'est-ce qu'elles pensent? T'sais, nous, on ne sait jamais. De tous les lecteurs, lectrices, on ne sait pas comment ils perçoivent le...
Surtout
le...
que, je voudrais le dire à Ève, mais c'est anonyme. Hein, nous, ils ne savent pas
qui lit,
parce que bon, etc. Alors,
À part peut-être parfois les gens qui ont écrit le livre et qui viennent le lire.
Ça, c'est différent, oui, c'est ça exactement. Mm. Mais sinon, ils ne savent pas. Mm. C'est vrai, c'est sûr, on reçoit... En fait, à chaque fois qu'on reçoit des commentaires via le SQLA, c'est toujours bon. Mais on n'a jamais directement. Mais ça arrive quand même. Là, je sais qu'il y a quelqu'un qui a lu une trilogie assez récemment puis qui nous a remercié grandement. Elle ne sait pas qui remercier parce qu'elle ne sait pas qui est la lectrice, mais ça, elle nous a remercié. Jean Bergeron, j'espère qu'on va se revoir prochainement.
Oui, j'aimerais ça moi aussi.
Oui, moi aussi beaucoup. Merci beaucoup, Jean.
Merci de m'avoir invitée.
De rien.
Bye bye.
L'invité spécial.
Alors, je me tourne maintenant vers ma gauche et je reçois Ève Landry. Je vous le disais, je suis vraiment très heureuse, Ève, que vous ayez accepté cette invitation-là. Faut-il vous présenter? Je me suis dit, il va vraiment falloir que je fasse attention à ne pas l'appeler Madame Biron, parce que c'est tellement collé à vous, hein, ce rôle-là dans Unité 9. Je suis même sûre qu'il y a des gens.
Mais oui, ben oui, toujours. D'ailleurs, la pièce que je viens de finir au théâtre d'aujourd'hui...
J'accuse. Hein.
Ouais, le régisseur me disait qu'à un moment donné, le spectacle s'est terminé, puis il y a une madame qui a dit « Ah! » Elle était bien bonne, la petite Biron. Ça va rester, je pense. Ouais.
Et puis, je vous ai invité, cependant, parce que je suis tombée à un moment donné sur une revue où vous étiez interviewée, puis on vous faisait parler de lecture, de l'importance de la lecture. Et comme je vous trouve éminemment sympathique, généralement, ça m'arrive souvent d'accueillir des gens que je connais déjà ou que j'ai déjà croisés. Nous, on ne s'est jamais vus, mais je me suis dit... Je la veux à l'émission.
Écoutez, ça fait plaisir, merci.
Mais ça me fait plaisir à moi aussi. Vous aimez la littérature, même si c'est par bout, comme on dit. Il y a des fois
c'est
où c'est un peu moins, mais quand même. Est-ce que la lecture, c'est arrivé vite dans votre vie? Vous aviez des parents qui lisaient?
Pas du tout. Moi, j'avais des parents que j'appellerais extérieurs. On était toujours dehors, on lisait pas, en fait. On allait jouer dehors, on allait jouer dans la forêt, tout ça. Ma sœur lisait beaucoup.
Ouais.
Ma sœur a lu la Bible, même. Elle a eu des passes étranges, ouais, mais ma sœur a lu la Bible très souvent. Sinon, non, moi, je lisais pas. Je me souviens d'avoir... Quand je lisais, j'avais l'impression de jouer le rôle de la petite fille sage et intellectuelle. C'était un rôle pour moi. C'était quelque chose de... quand je lisais, c'est que je venais de finir de faire le ménage de la salle de jeu, puis je voulais laisser ça propre. Donc, je faisais des casse-têtes et je lisais des livres.
Oh. Et là, après une semaine, je me croyais plus, puis je faisais autre chose. Mais sinon, non, mais c'est arrivé un peu plus tard. En fait, c'est le jour où j'ai rencontré un homme qui m'a expliqué que je pouvais lire un livre comme je le voulais, qu'il n'y avait pas de règles, et que je pouvais arrêter de le lire si je n'étais pas contente, et que je pouvais aller lire la fin.
Il était bien intelligent, cet homme-là.
Oui, il m'a vraiment dit, Ève, tu peux lire ce que tu veux et faire ce que tu veux avec le livre. Mm-hmm. Et du moment que j'ai arrêté de voir ça comme étant une obligation de le finir, ben j'ai appris à aimer ça. Et c'est aussi depuis que j'ai beaucoup d'amis auteurs autour de moi, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure, j'encourage beaucoup mes amis, puis je vais surtout lire les ouvrages de mes amis. Et là, ils sont très prolifiques, mes amis, donc j'en lis de plus en plus et je m'y intéresse de plus en plus.
Donc, vous êtes très proche de la littérature québécoise.
Énormément, oui. Beaucoup plus qu'ailleurs, oui.
Et ce sont souvent des jeunes, parce que dans ce livre-là, dans cette revue-là, vous en citiez plusieurs. Hein, je pense à Jean-Michel Guénassia, c'est comme ça que ça se prononce?
Oui, mais lui, c'est pas un ami. Mais lui, je le connais pas, mais lui, non? C'est vraiment... On me l'a référé en voyage.
Et lui, il a écrit le Club des incorrigibles optimistes. Ouais. Qui a été enregistré également.
Alors, allez ça... tellement écouter ça. Ah, que c'est bon.
Ah oui?
Moi, je l'ai lu à Berlin d'une traite.
Est-ce que vous vous souvenez, en quelques mots, de quoi
moi,
il s'agit?
Ça fait très longtemps, mais ce que je me souviens, c'est que c'est un enfant. On suit l'histoire d'un enfant. Moi, a priori, dès qu'on parle d'enfant et de drame dans une famille, tout ça, ça vient extrêmement me chercher, surtout si on passe par l'enfant et de ce que l'enfant... Donc, ouais, ce que
vous avez
ce
dû
que
aimer.
Jean, tout à l'heure, ça m'a beaucoup attiré. C'est un enfant qui travaille, qui habite dans une ville, et là, il y a comme son frère qui a une histoire d'amour, fait qu'il se promène un peu entre son frère et le club des incorrigibles, et il apprend à travers tout ça, et c'est la guerre en même temps, c'est vraiment, vraiment une très, très belle histoire qui est loin pour moi en ce moment, mais qui... C'est ça, habiter en voyage pendant longtemps.
Et puis, en plus, c'est une histoire qui est très habitée par des gens aussi connus que Kessel, Sartre,
tout ça
à Paris. Oui. Hein, c'est ça. Donc, c'est vraiment... C'est le foisonnement de cette époque-là, intellectuelle, politique et tout
et
ça.
Et c'est tellement bien... C'est visuellement si bien expliqué et tellement bien écrit que ça se lit tout seul. Vraiment.
Alors, le Club des incorrigibles optimistes de Jean-Michel Guénassia, que je vous appelle G-U-E-N-A-2-S. Ah, voilà. Et puis, le livre que vous nous avez amené aujourd'hui, c'est un livre un peu plus récent. Je vous laisse le soin de nous le présenter.
Oui, alors, c'est La maison du nôtre, paru chez Le Meillac, de François Gilbert, qui est un ami à moi avec lequel j'ai eu le plaisir d'improviser avec la LIM, la Ligue d'improvisation montréalaise. Donc oui, c'est ça, La maison du nôtre, ça fait... lui, c'est paru en 2012, je crois, ou même 2013... Attends, même, je ne sais plus en quelle année.
Parce que 2013.
2013, oui, parce qu'il a sorti Coma en 2012.
2012, c'est
ça. Et j'avais lu Coma, c'est loin quand même déjà, fait que je ne pourrais même pas vous en parler, mais j'avais beaucoup aimé. Et quand La maison d'une autre est sortie, j'ai fait, c'est sûr que je vais le lire. Et moi, c'est drôle parce que il y a des livres comme ça qui sont dans ma bibliothèque depuis vraiment longtemps et que je ne lis pas. Et à un moment donné, je fais, ah, c'est vrai, j'ai ça et je le ressors. Et... Même si je les ai achetés, on dirait que ça n'a pas à donner. Je voulais les lire là. Et quand je les ressors et que c'est le moment de le lire, c'est niaiseux, mais tu sais, aussi, je suis très spirituel et très, très ésotérique un peu. Donc, il y a comme, je vois des signes partout. Mais quand je lis un livre, on dirait que je l'associe automatiquement à ce que je vis. C'est comme quand je lis l'horoscope, je prends exactement ce que je veux qui fit avec ma vie, puis je fais ça marche tout le temps. Donc, les livres me font la même chose. Et c'est fascinant à quel point François, dans cette, dans ce roman-là, est venu parler directement à la fille que je suis au moment même où je vis, c'est que c'est l'histoire de Nanami qui va se marier dans 12 jours. C'est au Japon, l'histoire se passe au Japon. François, d'ailleurs, qui est allé au Japon et qui est allé rencontrer des femmes de banlieue du Japon pour s'inspirer pour le roman, et qui a écrit principalement ici, mais qui est allé s'inspirer là-bas. Et... c'est l'histoire, c'est ça, de Nanami qui, dans 12 jours, va se marier avec Hirosuke. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais appelons-le Hiro. Et donc, elle s'embarque dans une vie d'engagement et de droiture et tout ça, de fidélité envers son mari. Et dans les premières pages, Olivier, son ancien amant, son premier coup de foudre, si vous voulez, l'appelle et qui lui rappelle ses années un peu de, si je peux dire, débauche lorsqu'elle avait 19 ans et qu'elle allait dans les clubs de Tokyo, le ARV qu'ils appellent, je crois. Et et que là, elle a rencontré des centaines et des centaines d'hommes, mais celui-là a été particulièrement important dans sa vie, Olivier, et il l'appelle parce qu'il a besoin de son aide. Et elle décide d'aller voir, et c'est ça. Et lui, il a besoin, je peux le dire parce que c'est à la page 21, je ne vous révèle aucun punch, mais il doit cacher le corps d'une prostituée qui est décédée.
OK.
Et comme n'importe quelle femme logique et raisonnée, elle aurait juste dit « débrouille-toi ». T'as tué une femme, tu te débrouilles. Je suis désolée, mais je vais pas être complice de ce crime-là. Et elle, c'est ça qui me fascine, tout le long, elle est juste comme dans une espèce de nuage de... Et cet homme-là, à quel point il la fascine, l'attrait qu'elle a pour lui. Et aussi l'espèce de... C'est comme... Ça, il le décrit très, très bien. François, il dit que son chemin est déjà tout tracé à cette fille-là. Et là, tout d'un coup, s'ouvre un tunnel en dessous de ce chemin-là qui va arriver sensiblement à la même place. Mais... C'est un tunnel, c'est en dessous, c'est caché, c'est quelque chose de, qu'on ne veut pas voir. Et elle décide d'emprunter ce tunnel-là quand même, mais elle reste tout le temps comme, je l'imagine, dans un petit sentier entre les deux. Mm-hmm. Je pourrais remonter en haut, continuer à faire ma vie, ou vraiment creuser plus bas dans l'espèce de...
Ouais, ouais.
Et elle décide de s'occuper de cette femme-là et de la cacher. Elle la met dans le congélateur, dans la prochaine maison qu'elle va habiter, d'où la maison d'une autre. C'est une maison qui est construite, dans laquelle elle va emménager avec son amoureux. Et aussi, c'est fascinant parce que cette femme, la femme qui s'occupe, l'agente immobilière qui s'occupe de la construction et tout ça, bon, c'est une jeune héritière qui est l'ancienne maîtresse de son premier de Hiro. Donc, la confrontation, la rivale qui est là. Fait que c'est un grand drame, en fait. C'est vraiment une quête de qui tu es et ce que tu veux dans la vie. Mm-hmm. C'est quoi les choix que tu fais? Est-ce que tu t'engages pour toujours? Est-ce que tu laisses tes années de débauche de côté? Ou est-ce que tu fais un mix de tout ça pour trouver un équilibre, pour trouver qui tu es pour vrai? Être l'impression d'être une autre et tout ça. Fait que je trouve ça vraiment... Et c'est très bien écrit dans cette manière-là où on se reconnaît, on voit les choix, on les devine... Et on voit la difficulté. J'aime la manière dont le personnage évolue là-dedans tranquillement, en se posant pas de questions. Elle a pas des grands draps, elle a pas des crises de nerfs, à n'en plus finir, à se casser la tête sur les murs. Elle est juste comme, elle se laisse bercer là-dedans, puis elle se dit que ça va se présenter de soi, puis qu'elle va faire les bons choix en conséquence. T'sais, je trouve ça bien.
Ah, je vous écoute. On est tous. Non, c'est vrai parce qu'on a envie de se plonger non pas dans ce congélateur-là, mais dans cette dans cette histoire-là avec cette femme-là. Donc, si je vous entends bien, à l'époque où vous l'avez lu, vous aussi, vous étiez peut-être dans des questionnements de vous dire parce que c'est vrai que moi, je suis d'accord avec vous. J'ai toujours une formule qui dit qu'un livre ne nous tombe jamais dans les mains par hasard, qu'il nous soit donné ou que ce soit comme vous l'avez dit très justement dans notre propre bibliothèque. Il y a un moment donné, c'est vrai.
En ce moment, je lis Arvida de Samuel Archibald et c'est parfait. C'est exactement là où je suis en ce moment.
C'est vrai.
Je lisais ça au chalet en fin de semaine avec le paysage. J'étais dans le bois. Tu fais comme, ça donne trop bien. Là, c'est fascinant.
Mais par contre, est-ce que c'est possible qu'on lise tout d'un coup un livre et on n'est tellement pas dans ce mood-là qu'on fait on le met de côté et on recommence une autre fois. Ça, c'est un petit peu comme un couple amoureux, finalement. Tu sais, quand c'est pas le temps, parce que parfois, ça arrive.
Mais oui, des fois, ça marche pas.
On rencontre quelqu'un, ça marche pas.
Mais dans 5 ans.
Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Votre actualité, parlons-en un petit peu quand même. Donc, il y a 2 semaines, J'accuse, ça s'est terminé.
Feu J'accuse,
Tout le monde en a parlé. Malheureusement, je me sens un petit peu... On ne peut pas tout voir, je ne l'ai pas vu, mais tout le monde, tous les gens qui l'ont vu m'ont dit que c'était absolument extraordinaire.
J'imagine qu'on va le reprendre, là. J'imagine que c'est en pourparler.
D'accord. Et l'actualité, est-ce qu'on redémarre sur Unité 9? Est-ce qu'il va y avoir une autre saison?
On a redémarré le tournage il y a 2 semaines, justement.
Okay,
C'est recommencé. Bon. Je ne peux pas en dire beaucoup sur Jeanne, malheureusement, parce que je vais me faire tabasser une deuxième fois.
La petite Biron, elle ne peut pas nous dire
grand-chose. En ce moment, elle est aux soins intensifs. On se croise les doigts pour que les docteurs fassent bien leur job.
C'est ça, exactement. Et puis, en dehors de la télé, est-ce qu'on va pouvoir vous voir à nouveau sur scène ou au cinéma?
Pas cette année. Non, parce que là, j'ai 2 projets. J'ai Unité 9 et Salmi Gondi, qui est une nouvelle série pour enfants pour les 5 à 7 ans qui va être sur les ondes de Radio-Canada et Télé-Québec. Savoureux personnage que Lily Watt. C'est des jouets qui deviennent réels. C'est hallucinant. Ça fait longtemps que je veux faire du jeunesse. Donc, j'ai fait beaucoup de théâtre pour ados pendant 4 ans. Et là, je touche à la télé jeunesse. Puis, je suis très, très, très contente d'être là-dedans. Une super belle gang à découvrir.
C'est génial. Si on en revient à la lecture, qu'est-ce qui vous allume le plus?
Dans la lecture, en général, les images. Moi, parce que je suis comédienne aussi, et puis parce que j'imagine toujours être en train de jouer ce que je lis,
par défaut de fabrication, je dirais. dès que les images sont claires, précises et inspirantes, et dès que j'arrive à imaginer le film, tu sais, je lisais La Maison du Nord de François, puis je m'imaginais vraiment le film et je m'imaginais vraiment le lieu et tout. Ouais. Et quand ça, c'est clair, pour moi, c'est ce qui vient me chercher beaucoup quand j'imagine vraiment qu'on pourrait jouer ça. T'sais.
Est-ce que vous vous verriez vous-même écrire?
Écoute, j'ai essayé. J'ai essayé à quelques reprises, mais pas des romans. J'ai essayé des nouvelles, des trucs comme ça, mais je suis pas très bonne. Je me juge énormément. Tout ce que j'ai relu, je l'ai déchiré et jeté. Je suis pas une... En fait... J'ai de la misère à m'asseoir pour prendre le temps de le faire et à ne pas me juger. Puis, et je suis très difficile aussi, je suis très critique. Je vais lire un truc, puis si j'aime pas ça, j'aime pas ça. Puis tu sais, je le mets de côté, puis j'y retournerai pas, ou à moins d'avoir vraiment tout d'un coup un appel où on me dit « Non, non, vas-y jusqu'au bout, puis d'y retourner. Mm-hmm. » Mais comme ça, comme je suis critique envers moi-même, c'est quatre fois pire. Donc, ouais. Pas pour l'instant, mettons.
La question qui tue, vous allez sur une île déserte, lequel vous emmenez? Le livre, Ève Landry.
Qu'est-ce que j'amènerais? Hey, pour vrai, je suis tellement dans Arvida en ce moment que je pense que j'amènerai Arvida. Mais regardez, je vais amener 12 plages et une noyade que j'ai achetée hier d'un collectif d'auteurs paru chez Coup de tête. Ouais, ça, tu vois, ça va être ça parce que je ne l'ai pas lu encore. Puis c'est plein de... Mais, en plus, ça serait adapté à la plage, adapté à l'île déserte. Donc, ouais, 12 plages et une noyade. Ouais.
C'est encore un collectif québécois, ça? Ce sont pas des auteurs québécois?
Oui, en fait, c'est que j'ai une amie qui a écrit là-dedans, Stéphanie Pelletier, entre autres. Mm-hmm. Sinon, il y a aussi Robin Aubert. Elsa Pépin.
Oui.
Tristan, dont j'oublie le nom de famille, mais vraiment des auteurs qualifiés. J'ai très hâte, là, ça, j'ai acheté ça hier.
Jean Bergeron, ça vous a inspiré, ce livre dont elle a parlé tout à l'heure de M. Gilbert, François Gilbert?
Oui, tout à fait.
La maison d'une autre?
Oui, oui.
Encore là, on retrouve... remarquez-vous, là, c'était pas vraiment l'enfance.
C'était pas celui de l'enfant, donne envie, c'est que je vais te le refiler, celui-là.
Oh! Que j'aimerais ça.
Ben oui, parce que, puisque tu as dit, c'est touchant. Puis là, j'ai parlé un peu de ça, mais il y a beaucoup d'autres choses que j'ai jeté un mot là-dessus, là, sur...
c'est toujours comme
de
ça,
de tout
Jean.
Ce dont elle parle. Il y a beaucoup de choses, ouais.
Ben, écoutez, on va faire un échange. Je vais vous donner le mien de François.
Ah, c'est cool!
Ce sera un bel échange. Oh. Je lui en demanderai un autre quand je le verrai.
Il me semble que...
Mais je peux aller le porter à ta porte.
Il y a quelques écritures à l'intérieur. J'ai
si on était à Tout le monde en parle, on l'entendrait. Ce soir, l'amour est...
Ouais, non, c'est ça, oui.
Ah, ben, écoutez, non, vraiment, mesdames, c'était un bonheur que de vous avoir réunis, de vous avoir autour de moi aujourd'hui, autour de nous, parce que aussi avec toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, on est bien important pour eux, vous savez. Alors, c'est vraiment essentiel. Il me reste 15 secondes pour vous remercier, Ève Landry et Jean Bergeron.
Merci.
Merci à vous.
Vous écoutez À Livre Découvert avec Clotilde Seille et ses invités. Les livres audio, ils en mangent.
Et je suis très heureuse aujourd'hui de retrouver quelqu'un que j'adore. Je peux pas vous le cacher. J'ai une grande, grande, grande tendresse pour l'amie Jeannine Vanier. Bonjour Jeannine.
Bonjour Clotilde.
Comment ça va?
Ça va bien.
Ce
que vous venez de dire là me met en paix, me réchauffe des émotions que je viens de subir.
Bon. Ben écoutez, j'en suis très heureuse, Jeannine, oui, parce qu'on va le dire, on a eu un petit problème de téléphone et j'avais bêtement mal noté un chiffre, voilà. Alors du coup, Jeannine Vanier a cru que je l'avais oublié, mais pas du tout. Non, impossible de vous oublier, Jeannine. De quel livre avez-vous envie de nous parler aujourd'hui?
Je vais vous parler d'un livre de Marie-Josée Martin qui s'appelle « Un jour, ils entendront mes silences ».
Oh, très beau titre, hein?
Pardon?
Je dis très beau titre, « Un jour, ils entendront mes silences ».
C'est un titre qui, au premier abord, semble énigmatique, on dirait. Mm-hmm. En tout cas, ça pique un peu la curiosité. Oui. Ça fait... J'avais aucune idée de ce que j'allais lire. Je pensais à une personne atteinte de surdité ou quelque chose comme ça.
Oui, c'est vrai qu'on y pense tout de suite, vous avez raison.
Mais c'est, dans le fond, c'est pire que ça. Mmh. Parce que il s'agit d'une enfant qui est née, mon Dieu, comment je pourrais dire, qui est née avec une fragilité incroyable, handicapée.
Lourdement, hein?
Oui, lourdement, fragile et difficile, enfin délicate à manœuvrer, si on veut, là. Et puis qui avait besoin de toutes sortes de choses pour la soutenir. Puis on a fait...
D'attention.
On a fait sur elle des chirurgies à plusieurs reprises pour essayer d'améliorer tout ça. Mais ça a plutôt empiré les choses que les améliorer. En tout cas, mais c'est une enfant, elle ne pouvait pas s'exprimer, elle ne pouvait pas parler. Il fallait la faire manger, en tout cas, il fallait tout faire. Mais il semble-t-il que son cerveau n'était pas atteint. Parce que quand, en grandissant, elle percevait ce qui se passait autour d'elle sans pouvoir l'exprimer. Mm-hmm. Elle entendait les gens, ce qu'ils disaient, puis à mesure qu'elle s'éveillait, sa compréhension augmentait.
Oui. Oups.
Oh, qu'est-ce qui se passe?
Non, ça va, on est là. Donc, au fur et à mesure qu'elle vieillit, elle comprend de mieux en mieux, mais elle ne se fait pas comprendre de mieux en mieux.
C'est ça, elle ne peut pas s'exprimer, mais elle comprend des choses. Mais au moment où je lisais ce livre, j'entrais là-dedans, ça m'atteignait, là.
Oui.
Mais depuis, je me suis posé la question parce que ce sont tout ce qu'elle ne pouvait pas dire, mais qui nous a été livré dans ce livre-là.
Mm-hmm.
Est-ce que c'est l'auteur qui met ça dans sa tête, ou est-ce que vraiment c'est la petite fille qui... Je ne sais pas comment elle aurait pu communiquer ça, là.
Est-ce que vous avez l'impression que... Parce que, bon, c'est un roman, donc en principe, c'est une fiction, mais est-ce que vous avez l'impression que cette petite fille-là aurait pu exister et que son histoire fait l'objet d'un roman écrit par Mme Martin, Marie-Josée Martin?
C'est très possible, oui.
Hein, c'est ce que ça vous évoque. Hein.
Oui.
Je pense que ça vous a touché beaucoup parce que ça ébranle énormément les conceptions que nous avons de la normalité. Hein.
Justement, puis aussi l'attitude des gens qui l'entourent, parce que autant sa mère... dans un grand nombre d'années, enfin, je veux dire, la petite fille a vécu jusqu'à l'âge de 8 ans, mais pendant les premières années, elle lui accordait une attention soutenue, puis il n'y a rien qu'elle ne faisait pas pour elle, mais tout son entourage la désapprouvait et voulait qu'elle soit placée ou enfin quelque chose.
Oui.
Et puis, à un moment donné, la petite fille a commencé à percevoir ça parce qu'elle entendait autour d'elle. Puis, dans la suite des choses, une autre enfant est née, une petite sœur, qui était tout le contraire d'elle, qui était l'émerveillement de toute la famille, de tout l'entourage. Elle avait toutes les qualités que l'autre n'avait pas. Alors... C'est encore pour elle une difficulté.
Une difficulté de plus.
Je crois que la petite sœur, mais peut-être pas au début, mais à un moment donné, quand elle était en âge de comprendre et puis qu'elle comprenait ce qui se passait, elle a essayé, dans la mesure de ses possibilités, de l'aider.
Ah oui?
Oui. Elle essayait de la comprendre, elle essayait de... Mais
ça n'est pas, parce que j'ai lu un petit peu en diagonale ce livre et j'ai lu aussi quelques critiques, surtout quelques avis de lecteurs qui disent que ce qui est formidable, c'est que c'est une histoire qui fait vibrer, qui nous touche, qui nous fait réfléchir, mais en même temps, c'est pas un roman, c'est sans complaisance et ça ne cherche pas à faire en sorte qu'on s'apitoie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Tout à fait.
Oui,
tout à fait. Mais en même temps, ça, je sais, des fois, j'aimerais que beaucoup de personnes lisent ça parce que dès qu'on s'aperçoit qu'une personne n'est pas capable de s'exprimer, puis que, qu'il faut tout faire pour elle, puis qu'on ne se rend pas compte qu'elle peut être consciente.
Oui.
Puis on peut dire des choses. Tu sais, je dirais, c'est peut-être un petit peu paradoxal, mais peut-être que ça demande encore plus de respect, plus de délicatesse envers une personne comme ça que quelqu'un qui peut quand même dire un peu ce qu'il ressent. Là,
s'exprimer. Vous, Mme Vanier, qui êtes non-voyante de naissance, donc vous n'avez jamais vu, vous avez l'impression que du coup, le fait de pouvoir vous exprimer, est-ce que c'est peut-être pour ça aussi que ce livre vous a touché? Parce que vous n'êtes pas vous-même dans la, entre guillemets, et un énorme guillemet, normalité, mais au moins, vous parvenez à vous exprimer. D'ailleurs, vous ne vous exprimez pas que par la parole, par la musique aussi. Hein?
Oui, et... en fait, oui, ça m'a touché d'autant plus que, sans vouloir raconter ma vie, là, quand j'ai été hospitalisée à l'âge de 9 ans pour l'amputation de mes yeux, j'ai été longtemps à l'hôpital, puis à un moment donné, je savais pas pourquoi j'agissais comme ça dans ce temps-là, mais j'ai réalisé avec le recul que c'est probablement ça. À un moment donné, je voulais plus rien savoir de personne.
Ah oui.
Je voulais plus manger. Je m'en foussais la tête. D'abord, j'avais toujours mal à la tête.
Oui.
J'avais la tête enfouie dans mes oreillers. Puis les infirmières me parlaient, puis je leur répondais même pas.
Ah là là.
Je voulais pas manger.
Mm-hmm.
J'étais pas un cadeau. Hein.
Madame Vanier, Janine, je vous adore. Vous avez toujours la petite expression extraordinaire. C'est Janine Vanier qui nous parlait de ce livre-là dont je voudrais redonner le titre et l'auteur. C'est « Un jour, ils entendront mes silences » de Marie-Josée Martin. Juste avant de finir, dans le titre... Oui, allez-y, Janine.
Est-ce que je peux vous dire un petit peu finalement ce qui arrive? C'est
oui.
Que le couple se sépare.
Ah oui, parce que c'est là que je voulais en venir. Parce que comme c'est dit au futur, est-ce qu'ils ont fini par les entendre, les silences?
Je ne crois pas qu'il les ait entendus.
Non,
parce qu'elle s'est laissée aller, une petite fille, à un moment donné. Elle voulait plus manger ni rien. Puis elle est décédée à l'âge de 8 ans.
Oui.
Mais déjà, sa mère, quand elle a vu là, que la séparation était faite, là, qu'elle ne se sentait plus supportée de nulle part, puis probablement par lassitude aussi, la fatigue avec les années... Elle a comme baissé les bras, on dirait.
Oui, je comprends. Oui. Je comprends. Janine.
Alors, c'est une triste histoire.
Oui, vous ne nous amenez pas sur des sentiers très gaiés, mais ça fait aussi partie de la vie, hein?
Oui.
Et puis quand c'est bien écrit, eh bien voilà, quoi, c'est important. Alors je vous remercie aujourd'hui de nous avoir suggéré de lire « Un jour, ils entendront mes silences » de Marie-Josée Martin. Janine, on se revoit bientôt et on se téléphone, comme on dit, puis on va faire quelque chose ensemble.
Bon, et n'oubliez pas mon numéro de téléphone.
Non.
Je me sers pas de mon cellulaire, juste quand je suis en panne.
D'accord, il n'y a pas de problème, Janine.
Okay.
Allez, on vous embrasse tous très fort ici.
D'accord.
Au revoir.
De bouche à oreille, une page de littérature.
Oui, ça c'est un peu la bande-annonce pour la semaine prochaine, alors que je vais recevoir à cette même émission un livre découvert, oui je dis bien, la journaliste, chroniqueuse, reporter internationale Michèle Ouimet. Elle est à la presse et elle a signé un livre qui est sorti en octobre dernier, donc en octobre 2014, qui s'appelle La Promesse et qui est maintenant disponible évidemment, puisque sinon je ne vous en parlerai pas, donc disponible au SQLA. Et elle va venir nous parler de ce livre-là, donc qui s'intitule La Promesse, qui est l'histoire d'une femme qui est également grand reporter, parce que c'est comme ça que cela s'appelle, pour un quotidien montréalais. Non, elle se plaît à dire que c'est pas quelqu'un qui lui ressemble vraiment, mais même pas du tout. Elle l'a appelée Louise Durand. C'est une femme qui a la sensibilité à fleur de peau. C'est une sensibilité, c'est celle d'une femme qui a été témoin de trop de tragédies. Et puis, c'est une femme qui, pour survivre dans le milieu du journalisme où la concurrence est féroce, eh bien, c'est une femme qui doit donner plus de coups qu'elle n'en reçoit. Alors c'est fou parce qu'elle est très fragilisée par l'horreur de ce qu'elle peut voir, entendre lorsqu'elle est dans ces pays étrangers où, entre autres, les femmes ne sont pas épargnées, puisque c'est le sujet de ce livre-là. Et en même temps, tout le côté factice de la vie en Occident, où chacun tire la couverture sur lui, où il est beaucoup question de corruption. D'ailleurs, dans ce livre, il y a pas mal de chapitres qui concernent aussi un maire, qui est le maire de Montréal, et sa chef de cabinet. Mais le point de départ de cette histoire-là, c'est qu'au cours d'une mission à Kaboul, cette grand reporter-là, Louise Durand, fait la connaissance de Soraya, qui est une jeune afghane qui est mariée de force à un époux violent qu'elle fuit. Elle habite dans un refuge qui est tenu par une autre femme qui s'appelle Farida, qui se bat pour toutes les victimes de crimes d'honneur. Et Louise Durand est tellement touchée par le courage de ces deux femmes-là, et puis elle est touchée par la détresse de Soraya, qui a été mariée à ce bonhomme à l'âge de 12 ans, que Louise lui promet de l'aider. Et elle lui fait la promesse de la soutenir si elle accepte de venir à Montréal à titre de réfugiée, ce qu'elle va faire. Je vais vous en lire simplement un petit extrait. Cet extrait du chapitre qui s'intitule « Le déracinement ». On est à Kaboul. Soraya, à ce moment-là, est à quelques heures de son départ pour Montréal. Alors, c'est écrit ainsi. Soraya touche sa cicatrice du bout des doigts. Elle sent la boursouflure qui défigure son visage, un renflement violacé qui court le long de sa joue. Elle ne s'y habitue pas. Chaque fois qu'elle se regarde dans le miroir, elle a un choc. Elle préfère son profil gauche, où l'on devine à peine la balafre. Soraya fait le tour de sa chambre une dernière fois. Sur le sol, un tapis usé, dans un coin, un matelas où elle a tant pleuré et sur lequel repose la vieille valise que Farida lui a donnée. Elle y a soigneusement placé ses vêtements, deux serviettes, un savon, du shampoing, sa brosse à dents, une cuillère, une fourchette, une minuscule théière, cadeau de Farida, un dictionnaire anglais pashtoun et son Coran qui ne la quitte jamais. Ce soir, elle prend l'avion et quitte son pays pour toujours. Voilà, c'est donc extrait de La promesse de Michel Ouimet que je reçois la semaine prochaine à cette émission à Livre découvert.
Le classique de la semaine.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un classique. J'avais rarement l'occasion de pouvoir en parler parce qu'on n'a pas toujours des classiques qui sont relus, soit par Vues et Voix, soit par d'autres organismes comme l'INCa. Mais là, j'en ai un et un beau. La chatte sur un toit brûlant de Tennessee Williams. Vous vous souvenez de cet univers dans cette famille de planteurs installés dans le delta du Mississippi. On célèbre au début de ce film l'anniversaire de grand-père, cet homme qui est usé par la vie, qui fête ses 65 ans. La famille est autour de lui, on célèbre l'événement, la demeure s'anime. Il y a sa femme, il y a leur fils aîné, Gooper, son épouse, leurs 5 enfants, ainsi que le cadet, Brick, qui est marié à Margaret. Et alors bon, au début, tout est beau, il y a des éclats de rire, en tout cas bon, c'est... Mais très rapidement, les choses vont changer. La famille américaine modèle qu'on a l'impression de voir est parfaite. Tout d'un coup va complètement s'effriter. Le Brick en question, donc le fils cadet qui cherche dans le whisky de quoi rehausser l'insipidité de son existence. Et puis son mariage qui part à volo. Le couple, entre autres, n'a pas d'enfant. Margaret, elle, c'est une femme excessivement belle, qui, vous savez, de ces femmes dont les hommes tombent littéralement tous en amour ou du moins en désir. Et alors que l'autre frère, lui, il a 4 ou 5 enfants, le fait que ce couple-là n'a pas d'enfant au départ, ça rend les choses extrêmement difficiles. Et puis, bon, voilà, après, ce sont les rapports qui s'effritent complètement. Je ne vous rappellerai pas tout ce qui se passe là. On se souvient qu'il y a eu un film très, 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 très connu sur le sujet. C'était, comment il s'appelait ? C'était... Est-ce que c'était Steve McQueen? Non, c'était pas qui faisait le rôle de Brick. Voyons comment il s'appelle. Je l'avais retrouvé quelque part et je me suis perdue dans mes pages. C'était Elizabeth Taylor, hein, je pense, qui faisait la femme. Et lui, c'était, voyons, un bel âtre aux yeux, Paul Newman. C'était Paul Newman qui faisait Brit, et puis Elizabeth Taylor qui fait sa femme. On se demande même, à un moment donné, vous vous souvenez, on se demande même s'il n'est pas homosexuel, le monsieur. Enfin bon, bref, c'est formidable. C'est du Tennessee Williams, la chatte sur un toit brûlant, dont on dit d'ailleurs sur la quatrième de couve que ce sont... Que Brick et Margaret sont des naufragés de tempêtes matrimoniales qui semblent avoir touché le fond. Margaret, elle tente de ranimer le couple, mais ça ne fonctionne pas du tout. Alors voilà un livre, peut-être une pièce de théâtre, hein, parce que c'est une pièce, hein, au départ, à mettre entre toutes les mains et surtout entre toutes les oreilles.
Quelques nouveautés en rafale.
Et oui, j'en ai de la nouveauté pour aujourd'hui encore. Alors, je voudrais commencer par ce livre de Mélissa Véro, L'angoisse du poisson rouge, qui était en lice pour recevoir le prix des libraires. Mélissa Véro, bon, finalement, ce n'est pas elle qui l'a reçu. Alors, le résumé un petit peu de ce livre, L'angoisse du poisson rouge. On parle de Manu. Manu qui aime se faire croire que son existence digne d'un scénario hollywoodien est catastrophique. Il y a aussi le personnage de Fabio, qui est un jeune Italien immigrant qui ne se sent chez lui nulle part, parce que lorsqu'il a choisi de quitter sa maison, elle nous devient, comme il dit, à jamais interdite. Et leurs chemins se croisent à Manu. Manu, eux, hein, c'est une fille qui elle, recherche son poisson rouge mystérieusement disparu, et le récit de leur relation s'entremêle avec celui de Sergio, qui lui est un soldat de la Seconde Guerre mondiale, qui est mort à peu près 100 fois. Et ces trois-là vont s'embarquer dans une épopée complètement improbable, où les méduses détiennent la réponse aux questions existentielles, où les messages sont livrés par pigeons voyageurs, et où il est parfois nécessaire d'entrer par effraction dans sa propre demeure. Dans l'actualité, on pouvait lire le 13 octobre 2014... Mélissa Véro sait qu'il n'y a pas d'histoire simple et que les déboires d'une jeune femme qui a perdu son poisson rouge peuvent faire écho autant au sentiment d'aliénation d'un immigrant italien qu'au calvaire de son grand-père, emprisonné dans un camp de travail sibérien. Un court extrait ici de ce livre, L'angoisse du poisson rouge de Mélissa Véro. Elle s'approcha des vitres pour tenter de toucher ces animaux translucides qui devaient être aussi vieux que le monde. Les méduses s'étaient contentées de ce qu'elles avaient, satisfaites de cette existence simple et souple, à dériver dans les profondeurs des océans sans fin. Elles ne demandaient rien d'autre que ce qui leur avait été offert, l'humilité faite lumière. J'ai aussi à vous proposer « Le bonheur n'est pas un sport de jeune fille ». C'est un livre écrit par une jeune femme qui s'appelle Elise Tilroy, ou Tilroy, écoutez, ça s'écrit T-I-E-L-R-O-O-Y. Alors oui, c'est ça, hein, c'est pas évident. Nous sommes dans un centre de thalasso breton. C'est vraiment une comédie, alors pétillante et cocasse. C'est une comédie sur le bonheur, et c'est un bonheur qui vous fait littéralement changer de peau. Et dans un centre de thalasso qui sent bon le chlore, les algues, les clients qui croient être venus pour une cure de détente, eh bien, il y en a qui comptent oublier leur quotidien et leur vergeture dans l'intimité des cabines surchauffées. Ils espèrent tous trouver la beauté grâce à des mains suaves et à la nourriture. Pour futurs minces, ils sont tous prêts à ne s'occuper que d'une chose, leur corps. Mais Ils vont croiser le chemin de Guillemette, qui est une masseuse de 22 ans, qui va voir son passé ressurgir et mettre un joyeux désordre dans le bel équilibre des soins, entamant au passage bien des défenses et fragilisant les curistes les plus résistants. Ils seront tous secoués, ils seront tous transformés, pour le pire comme pour le meilleur, car le bonheur n'est pas un sport de jeune fille. Je vous redis le nom de cet auteur, Élise Tilroy, ça s'écrit T-I-E, L-R-O-O-Y. Vous vous souvenez certainement de ce livre d'Ingrid Betancourt qui s'intitule « Même le silence a une fin » alors qu'elle revenait sur sa captivité. Eh bien, Ingrid Betancourt signe aujourd'hui un roman qui est donc enregistré, qui est disponible maintenant via le SQLA, un roman qui s'intitule « La ligne bleue ». Un résumé, nous sommes à Buenos Aires dans les années 70 avec Julia, qui est une jeune Argentine qui a hérité de sa grand-mère un don précieux et de façon imprévisible, des scènes de l'avenir lui apparaissent à travers le regard de quelqu'un d'autre. Alors, à charge pour elle d'interpréter sa vision et d'intervenir si elle le peut pour empêcher des événements malheureux. Et l'histoire de Julia se déroule dans une période troublée de l'histoire argentine. Le retour de Perón en 73, qui s'effectue dans des conditions très mouvementées. Le vieux dirigeant s'aliène une partie de son soutien populaire en fermant les yeux notamment sur le massacre de l'aéroport d'Ezeiza, lorsque l'armée tire sur la foule d'étudiants venus acclamer son retour. Et puis bientôt, les Montoneros s'organisent dans une résistance plutôt clandestine. Alors Julia et son compagnon, Tim, s'impliquent dans le mouvement au contact d'un curé, un curé charismatique qui s'appelle le père Mujica, personnage qui a réellement existé. C'était un précurseur de la théologie de la libération. Alors Julia, Tim et leurs camarades vont connaître l'enfer des centres de torture. Beaucoup disparaîtront. Et à la fin de la dictature, Julia tentera pendant des années de retrouver la trace de Tim, le père de l'enfant qu'elle portait lors de son arrestation. Elle le retrouvera. Mais tandis qu'elle regarde résolument l'avenir, Tim lui est incapable de se détacher des fantômes du passé. Alors c'est un tableau de l'Argentine des années sombres. C'est un tableau captivant. Et Ingrid Betancourt y introduit aussi une note fantastique qui agit puissamment sur l'imagination du lecteur. C'est rien d'étonnant d'ailleurs à ce que l'auteur renoue dans ce premier roman avec les thèmes qui traversaient bien évidemment le grand récit de sa captivité dans la jungle, c'est-à-dire la privation de liberté, le courage individuel et la servilité collective, l'espoir, la foi en l'avenir de l'humanité. Avis d'un lecteur, un beau roman, âpre et fort, avec des personnages féminins marquants et une tension dramatique. Attention, si vous êtes une âme sensible, des scènes de torture non complaisantes mais assez réalistes, de nombreux passages en captivité, un roman sensible et intelligent en hommage aux Desaparecidos d'Argentine. Dans les Échos, le 30 juin 2014, on pouvait lire « Il ne s'agit pas des FARC colombiennes, mais des Montoneros, ces groupes marxistes nés dans les années 60 qui ont affronté la dictature des généraux argentins ». Je vous rappelle le titre « La ligne bleue » d'Ingrid Betancourt. J'ai encore un d'autres titres à vous suggérer. Par exemple, ceci, « Bouillon de poulet pour l'âme en deuil » de Jack Canfield. Voici le titre le plus puissant de la série « Bouillon de poulet pour l'âme », nous dit-on. Les lecteurs seront réconfortés et inspirés par ces témoignages de gens ayant retrouvé la force et l'espoir à travers les différentes façons d'affronter la perte d'un être cher, soit en organisant des cérémonies dignes de ce nom, ou encore faire des actions réfléchies, se remémorer les meilleurs moments. C'est vraiment un livre rempli de courts textes ou de courtes nouvelles. Il y a aussi des petits poèmes. C'est très réconfortant lorsque vous êtes en période de deuil. Par exemple, cette citation de Daphné du Maurier, qui est extraite de ce livre « Bouillon de poulet pour l'âme en deuil ». Je dirais à ceux qui pleurent, Voyez chaque jour qui vient comme un défi, comme un test de courage. La douleur viendra par vagues. Certains jours seront pires que d'autres. Sans raison apparente, acceptez la douleur. Ne la faites pas disparaître. Ne tentez jamais de cacher le chagrin. Et puis ces quelques mots d'Abraham Lincoln ici. En ce triste monde qu'est le nôtre, le chagrin vient à nous. Et il vient souvent avec une cruelle souffrance. Un véritable soulagement n'est pas possible, sauf avec le temps. Vous ne pouvez pas croire en ce moment qu'un jour vous vous sentirez mieux. Mais cela n'est pas vrai. Il est certain que vous serez de nouveau heureux. Savoir cela en le croyant vraiment vous rendra moins misérable en ce moment. J'ai vécu assez d'expériences pour faire cette déclaration, cet extrait de ce petit livre vraiment sympa, Bouillon de poulet pour l'âme en deuil, de Jack Canfield. Et puis, à l'ombre des arbres millénaires, de Vade Ratner, ça s'écrit R-A-T-N-E-R. Nous sommes au Cambodge, en 75. Rami a 7 ans et elle marche avec une attelle, qui est une séquelle de la polio qu'elle a contractée quelques années plus tôt. Elle vit une enfance choyée à Phnom Penh. Son père est un poète reconnu, homme doux et raffiné. C'est un prince de sang royal qui règne sur le clan familial lorsque le 17 avril 1975, les Khmers rouges envahissent la ville. Et là, c'est le début de l'horreur. Alors ça s'intitule « À l'ombre des arbres millénaires » de Vade Ratner. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, non sans remercier mes camarades Mathieu Tessier et Jean-Sébastien Laliberté. Remercier aussi mes invités, c'est-à-dire entre autres Ève Landry et Jean Bergeron et Janine Vanier, bien sûr. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été là.